il y a tellement de variations dans l'humanité. Et puis, en fait, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que forcément, c'est Nouvel An pour nous. Le Nouvel An, c'est pas la même date pour tout le monde. En Chine, généralement, c'est entre le 20 janvier et le 19 février. Pour les bouddhistes, c'est entre le 12 et le 15 avril. Dans le temps, en Égypte, le Nouvel An commençait à partir du moment où il y avait la crue du Nil. Et donc, pour les Égyptiens, c'était une nouvelle année. D'autres fois, en Égypte, c'était à partir du moment où il y avait un nouveau pharaon. Des fois, d'ailleurs, dans les chroniques, dans les rois, on voit ça aussi. Tel roi décède, il a régné autant, et maintenant c'est un nouveau roi. Il y avait comme ça aussi des calculs qui se faisaient de cette manière-là. Pour nos amis juifs, le Nouvel An 2023, ce sera du 15 au 17 septembre. Et là, en ce moment, nous sommes l'année, 5783. Pour les musulmans, ce sera en juillet. Et la datation se fait à partir de l'an 622. Les Romains, eux, ils comptaient à partir du moment où Rome a été fondée. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi, je me rends compte que Nouvel An, c'est chaque année. si, je vous l'assure. Chaque année, il y a un Nouvel An. Et parfois, nous espérons un nouveau recommencement. Ta vie change au moment où tu t'engages dans de nouvelles décisions. En fait, c'est moins à Nouvel An qu'à chaque décision que nous prenons et qui nous engage vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un permis de conduire. On a un nouveau travail, on se marie, ou on a un enfant, ou on déménage. Il y a comme ça dans la vie des étapes, mais ce n'est pas un recommencement, c'est une continuité dans quelque chose qui est différent. Pour les personnes âgées, il faut s'adapter à l'âge. Et apparemment, ce n'est pas évident non plus. J'ai vu mes beaux-parents surtout, mon beau-père surtout râler parce qu'il était devenu vieux et qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait à 20 ans. En même temps, je comprends. Et en même temps, des fois, je me dis, « Ah, Seigneur, je ne sais pas comment je serai quand je serai vieux. » Parce que là, je ne le suis pas, les jeunes. Pas encore, ça vient, mais ouais. Bientôt 70 ans, mais pas encore. Donc je n'ai pas dit qu'à 70 ans on était vieux. C'est un peu dans voilà ça. Ce que je veux juste dire, c'est que effectivement à un moment donné, l'âge fait que il y a moins d'énergie, moins de possibilités. Et qu'il faut pouvoir s'adapter et vivre quand même des choses qui soient enthousiasmantes dans la vie, nous permettant de passer d'un temps sur un autre. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous devons être en restant ce que nous sommes. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas trop l'envie ni le temps d'ailleurs de. Mais je me dis qu'il y a une vérité là-dessus. sur cette, dans cette parole. Si nous voulons éviter la routine, il nous faut des choses nouvelles. Il faut que l'on puisse vivre, y compris sur le plan spirituel, des choses qui nous enthousiasment. Une des pires choses, je crois, enfin, c'est mon avis, dans la vie spirituelle, c'est justement la routine. Et au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi on vient à l'église le dimanche? Pourquoi on croit en Dieu? Pourquoi ça sert à quoi? La routine sape l'enthousiasme, la joie qui est une force pour que l'on puisse non seulement s'épanouir personnellement, mais aussi aller plus loin. Donc il faut s'adapter au fur et à mesure, mais j'allais dire, l'adaptation n'est pas, je parlais il y a quelques temps de la résilience, voilà, c'est pas juste on subit et on baisse, on fait le dos rond en attendant que ça se passe, mais on essaye de voir comment dans les périodes que nous vivons, fastes ou moins fastes, comment est-ce que on peut trouver le chemin que le Seigneur souhaite pour nous. Il y avait, je ne l'ai pas mis, mais il y avait une photo comme ça avec une maxime qui parlait justement du fait des difficultés qui sont que nous pouvons avoir. Et je me suis dit, mais quand même, il n'y a pas que des difficultés dans la vie, quoi. Et la vie chrétienne, même si des fois on entend que c'est compliqué ou difficile, je trouve que c'est quand même pas si compliqué que ça, quoi. Hein? Ouais. Mais non! Chouette, la vie chrétienne! Ah, la vie chrétienne, c'est long, c'est dur, c'est difficile, c'est contraignant. Mais non! Vous avez rien compris, alors. C'est chouette, c'est joyeux. Il y a des moments compliqués, mais c'est pas parce que c'est compliqué. En fait, le Seigneur est plus, me semble-t-il, notre amour pour le Seigneur est plus grand que les complications et les difficultés que nous avons. Et puis, comment dire, les personnes qui vivent sans la foi ont elles aussi, j'allais dire, des problèmes et des difficultés. Donc, on n'a pas à chercher dans l'Église une assurance tout risque qui ferait qu'on n'a plus de problèmes ou plus de difficultés, quoi. Mais au milieu ou en plein, dans les difficultés et dans les problèmes, comment trouver la ressource de la joie, de l'enthousiasme, du fait que, en fait, alors je ne sais pas, je n'ai pas noté, mais si je commence, ça risque d'être long. À un moment donné, si je veux parler de moi, j'ai dit à Dieu, ok, je te donne ma vie et je mets ma vie dans tes mains. Dans ta main. Ben, maintenant, c'est toi qui conduis et qui dirige ma vie. Ce qui fait que quand il arrive quelque chose, je dis, Seigneur, toi, tu connais toute chose, quoi. Je ne vais pas me laisser défaire par rapport aux circonstances de la vie parce que ma vie est entre tes mains. Et que je sais que ton amour pour moi est là, quoi qu'il se passe, tu es là. Je suis dans ta main. Et en pensant à ça, je pense à un ami pasteur. Nous avions j'avais organisé une rencontre de pasteurs. Il y en a qui étaient venus d'un peu partout. Voilà. Et puis. Il y en a un qui me téléphone quelques mois après en me disant, Bernard, je te raconte, Lorsque je suis parti, j'étais dans la voiture avec mon épouse, on partait et l'orateur principal qui exerce un ministère prophétique a arrêté ma voiture et m'a dit « Mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai vu sur un lit d'hôpital. » Alors il dit bah, « Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il me veut pourquoi il me dit ça ?» Et puis finalement, effectivement, je suis sur un lit d'hôpital et on a diagnostiqué un cancer. Et il me disait, tu vois Bernard, grâce à cette parole très inattendue, je sais que Dieu connaît ma vie et mon avenir et que de toute façon, rien ne pourra se faire au-delà de sa volonté, parce que ma vie est entre ses mains. Amen. Je trouvais que c'était chouette de pouvoir vivre cette manière de dire, mais oui, c'est voilà, c'est pas simple, c'est pas facile, mais je sais que je suis entre les mains du Seigneur. Il y a une question qui a été posée à Salomon avant même, enfin au moment où il prenait la place de son père en tant que roi, et dans un rêve, Dieu vient et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Notre traduction demande ce que je dois te donner. Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. En fait, cette parole nous a été donnée ici, au Colombier, à l'église du Colombier, un jour, par un orateur et par quelqu'un d'autre qui était passé, en disant, voilà la question que Dieu, le Seigneur, vous pose. Qu'est-ce que, Église du Colombier, qu'est-ce que tu veux ? Demande-le-moi. Salomon, lui, il a répondu, veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Et cette demande de Salomon plut au Seigneur. J'ai comme l'impression que le Seigneur dit à quelqu'un de particulier ce matin, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? C'est un peu la question qu'a posée Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? On se souhaite des bénédictions, de bonne année, de santé, de ce qu'on veut. Et le Seigneur, en ce jour, vient te dire, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Salomon aurait pu effectivement dire, je veux de la richesse, du pouvoir, de la reconnaissance, mais il demande l'intelligence nécessaire pour gouverner un peuple, parce que, dit-il, je suis jeune et je suis inexpérimenté. Il a l'humilité de demander le secours de Dieu, du Seigneur, pour gouverner. À l'occasion, je toucherai un mot à président Macron et à ceux qui nous gouvernent. Je ne sais pas si je verrai demain au vœu, si j'aurai l'occasion de discuter avec monsieur le ministre Christophe Béchu, qui sera là, mais voilà, enfin Christophe sait que nous prions pour la ville, que nous prions pour ceux qui sont en responsabilité et que nous essayons de prier plutôt que de critiquer. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'avais demandé, j'avais posé cette question à un maire adjoint lors d'un repas pris à la mairie. À la fin, j'avais dit, vous vous souvenez, hein, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, nous, en tant qu'Église, on ne viendra pas forcément quémander parce que nous aurons besoin. Mais nous venons vers vous pour vous demander qu'est-ce que la ville a besoin. Et je lui avais dit, nous voulons prier pour la ville. Qu'est-ce que nous pourrions demander au Seigneur pour le bien de cette ville? Et contre toute attente, parce que je me disais qu'il allait certainement pas me répondre, mais si, il a dit, si vous voulez prier, priez pour la concorde de la ville. Prier pour la paix, parce qu'après la crise sanitaire que nous avons connue, il y a d'autres crises qui se profilent et que nous ne savons pas aujourd'hui comment nous allons pouvoir gérer. Je trouvais ça intéressant, quoi. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir interpeller les élus sur la prière que la ville ou le département a besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il ne faut peut-être pas se précipiter pour répondre, encore que il ne faut pas trop attendre non plus. C'est un peu décousu ce que je dis, mais en pensant à ça, je dis, mais je ne sais pas quelle était la mentalité de Salomon, mais il était déjà un peu sage à l'époque pour faire ce type de prière et de demander quelque chose qui permettait à tout le peuple de vivre bien ou de vivre mieux, ou de vivre selon la justice. Si le Seigneur te pose cette question, la même, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Essaye de ne pas répondre de sorte de demander des miettes alors que Dieu veut te donner du pain et un pain entier. Parce que des fois, nous n'osons pas demander à Dieu parce que nous pensons que c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop haut. Je me suis rappelé de cette maxime que j'ai dans un petit carnet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une religieuse protestante, Basilea Schlink, suisse ou allemande, elle dans ce petit carnet que j'ai, il y a cet encouragement, plus tu attends de grandes choses dans le domaine de ton action en tant que serviteur de Dieu, plus il te sera donné. Sois donc hardi dans la prière de la foi. Plus tu attends de grandes choses dans le domaine, plus tu attends de grandes choses de Dieu, plus il te sera donné, sois donc hardi dans ta prière. Autrement dit, ne demande pas seulement des miettes, parce que le Seigneur veut te donner peut-être plus que des miettes. C'est très simple, quoi, je trouve. Ce qui fait que, en tout cas, en ce qui me concerne, ce type de parole m'encourage à dire, mais effectivement, Seigneur, je veux, pas forcément pour moi-même, mais je ne veux pas que des miettes. Le souci avec ce type de proposition de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Le problème, c'est le temps qui passe. parce que le temps passe et on se dit, oh punaise, c'est compliqué, je croyais que Dieu allait répondre à ma prière. Alors il le fait, hein. Voilà, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec nous. Dieu n'est jamais en retard. Il vient jamais en avance et il vient jamais en retard. Puis Habacuc, le prophète, dit « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr. » Elles arriveront sans retard. En même temps, c'est un peu compliqué pour nous d'attendre. Je le dis parfois, hein, ici, je pense avoir reçu, avant de venir à Angers, je pense avoir reçu des promesses de la part du Seigneur il y a 42 ans que je ne vis toujours pas. Et j'ai été j'ai partagé ça juste comme ça en passant au Togo pendant les 15 jours où j'étais avec Étienne pour faire de l'enseignement. Et il y a deux jeunes qui me suivent et puis c'était le dernier jour. Ils voulaient absolument porter ma serviette. Alors je dis, ben non. Je peux prendre mon sac, quoi. Bon. Donc, ils sont venus. Et puis, il y en a un qui, sur le pas de la porte, dit « Est-ce que je peux rentrer pour prier pour toi ?» Alors, je dis « Bah, rien, rentre dans ma chambre, ouais. Si tu veux prier pour moi, il n'y a pas, ouais, pas de souci. » Et puis, finalement, il dit « Je vais prier pour que les promesses que tu as reçues du Seigneur il y a 42 ans se réalisent avant que tu ne décèdes. » Non, non, mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Parce que 42 ans, ça fait un bout, quoi. On se dit, ben Seigneur, alors ce qui est le plus casse-pied, enfin, c'est pas que c'est le plus casse-pied, mais quand je suis allé aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique ou dans d'autres endroits, les promesses que je pensais avoir reçues de la part du Seigneur, il y a des gens qui venaient me dire la même chose, alors qu'ils ne savaient pas. Voilà ce à quoi Dieu, le Seigneur, t'appelle. Alors, je dis, Seigneur, ras-le-bol de me rappeler à chaque fois ce à quoi tu m'appelles. Vas-y maintenant, quoi. Je prends de l'âge. Bon, peut-être qu'il attend justement que je me calme et que je le laisse faire. Bon, mais quand même, c'est long. J'aime bien le verset, là. Non, c'est pas ça. Il y a un verset... je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous le lire. Dans Genèse, chapitre 25, le verset 21. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel entendit sa supplication, sa femme Rebecca devint enceinte. C'est un verset, quoi. Et on se dit, waouh, oh le mec, waouh, il prie parce que sa femme est stérile, et paf, elle devient enceinte. Sauf que quand on gratte un peu la parole, on se rend compte que entre le début et la fin du verset, 20 ans s'est passé. C'est parce que quand on lit, si on ne fait pas gaffe, on se dit, waouh, mais moi aussi je veux. Bah ouais, mais... Ouais. Quand on pense à la vie de Joseph en prison, alors que effectivement, il avait eu des visions, des rêves, etc. Mais qu'est-ce que je fous là à la prison, quoi ? Des fois, il y a de quoi se poser des questions. elles sont légitimes, mais en même temps, c'est ça, l'attente est un peu longue. En Afrique, puisque je pense à l'Afrique, au Togo, il y a un des jeunes qui était en train de... À la fin, ils ont prié pour Étienne, ils ont prié la semaine d'avant pour moi. Et donc, à Étienne, ils lui ont posé la question, la même, « Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ?» Et donc, je ne vais pas vous dire ce que Étienne a demandé, mais le Seigneur, lui, au travers d'un des jeunes qui était là, lui disait « Étant donné que tu n'as rien demandé pour toi et pour ta vie familiale, je te donnerai en plus ce qu'il y a dans ton cœur. Je te donne en plus. » Je ne sais pas, non, vous ne savez pas. La plupart, vous ne vous rappelez peut-être pas quelle a été la réponse de l'Église à cette question. Église du Colombier, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et donc, on a pris le temps de la réflexion, du partage, et puis on a eu un dimanche une prière solennelle qui est celle-ci. Nous avons répondu au questionnement de l'Esprit-Saint en disant « Seigneur Jésus, par amour pour toi, fais de nous une communauté de disciples amoureux de toi. Nous voulons que tu sois toujours le centre de notre vie. Fais de nous un peuple d'adorateurs, animé d'un esprit de louange, de prière. Fais de nous un peuple de témoins dans la ville et au-delà. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et qu'il en résulte de nombreuses conversions. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance et que chacun exerce les dons spirituels pour la gloire du Seigneur. Aide-nous à mettre en œuvre la multiplication de disciples, pourvois aux besoins de ministères et de responsables. Fais de nous des partenaires de ta compassion. Père, par amour pour toi, conduis-nous. Inspire-nous afin que tu te réjouisses de tes œuvres. En relisant ça ce matin, je me suis dit, c'est toujours d'actualité. C'est toujours, me semble-t-il, notre prière. Par amour pour toi, Seigneur, ça reprend un peu ce que dit le prophète Daniel. Seigneur, par amour pour toi, agis et interviens. C'est pas par amour pour ton peuple, c'est principalement pour toi. Et donc nous avons voulu et nous voulons aujourd'hui encore dire la même chose. Seigneur, nous te demandons de t'aimer. Et de t'aimer et de faire en sorte que ton amour touche le cœur, les corps, la vie de nos concitoyens. Voilà. Je me suis dit, quand même, ce serait bien que vous puissiez, nous puissions revoir ce que nous avions. Demandez au Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vos vies, mais en partant d'ici, repense à cette question que le Seigneur te pose, peut-être d'une manière personnelle, à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne et que je fasse pour toi ? Je te laisse répondre. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est sympa de nous poser des questions. Et ce type de questions nous bouscule parfois, nous oblige en tout cas à réfléchir et à ne pas répondre dans la précipitation, mais dans la profondeur, avec authenticité. Et nous te prions ce matin que nous ne soyons pas juste là pour... que cette année nouvelle ne soit pas un recommencement ou une attente de recommencement, mais que ce soit une continuité dans la profondeur, en tout cas dans la confiance que nous avons en toi. Que cette année 2023, nous puissions te faire confiance en ce qui concerne nos cœurs, nos vies, notre foi, notre famille, notre travail. Que chacun, Seigneur, puisse recevoir ou sentir dans son cœur que notre vie est entre tes mains et que c'est toi qui conduis et dirige nos vies, pour autant que nous t'ayons donné, demandé de conduire et de diriger nos vies. Que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent chacun en particulier, et que chacun, Seigneur, tu donnes à chacun d'être inspiré dans la réponse à te donner. Aujourd'hui, demain, après-demain, qu'importe, mais donne-nous d'être inspiré comme Salomon a été inspiré pour répondre et te donner une réponse qui te plaît, parce que nous souhaitons te plaire. Amen. Amen.